Luc, chapitre 12, les versets 13 à 21. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus : Maître, dites à mon frère de partager notre héritage avec moi. Jésus lui répondit : Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? Puis il leur dit : Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant : Que vais-je faire ? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit : Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu.
Bonsoir à tous. Donc, comme il a été dit, je m'appelle Daniel Hillion. Je travaille pour l'association Le SEL, le Service d'entraide et de liaison, qui est une association chrétienne de solidarité internationale qui vise à améliorer les conditions de vie de personnes et de populations en situation de pauvreté dans les pays en développement. Et l'une de mes tâches au sein du SEL consiste à visiter les églises en France pour voir avec les chrétiens ce que la Bible a à nous dire sur le sujet de notre responsabilité face à ceux qui vivent dans la pauvreté et pour présenter les actions soutenues par le SEL dans divers pays en développement. Et c'est ce que je vais faire avec vous ce soir. Et je vous propose, dans un premier temps, que nous penchions sur le texte de la parole de Dieu qui a été lu. Et puis, dans un moment, je lirai la suite du passage de l'Évangile selon Luc. Le texte qui vient de nous être lu est un texte qui commence par un sujet qui a pourri la vie d'un grand nombre de familles, une querelle autour d'un héritage. Un homme se plaint, à tort ou à raison, le texte ne nous le dit pas, que son frère refuse de partager leur héritage. Et cet homme vient faire appel à l'autorité du maître et Jésus, pour exercer une pression sur son frère. Et à cette occasion, Jésus raconte une parabole qui touche aux orientations les plus profondes de notre vie. Elle nous parle de deux catégories de personnes et nous amène à nous poser la question de savoir où nous nous situons nous-mêmes. Il y a d'une part des hommes dépourvus de bon sens, qui amassent des trésors pour eux-mêmes. Et puis d'autre part, des personnes qui sont riches pour Dieu. Voici donc un homme qui a un projet. Il est riche et il décide de prendre de très longues vacances. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Il m'est arrivé de me dire, en lisant ces paroles, « Si seulement je pouvais en faire autant. Me reposer, enfin, et profiter de la vie, autant que possible. » Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans l'attitude de cet homme ? Est-ce que Dieu est contre le fait que quelqu'un se réjouisse ou profite de conditions de vie agréables ? Nous allons lire deux autres passages de la Bible qui vont nous permettre d'approfondir le sens des paroles de Jésus. D'abord, dans la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 6, les versets 17 à 19 nous dit « Aux riches de ce monde ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Nous allons revenir sur ce texte dans un instant. Je voudrais que nous nous tournions maintenant vers l'Ancien Testament. Dans le livre du prophète Jérémie, nous entendons parler du roi Joachim qui s'était lancé dans des projets de construction grandioses, mais qui oubliait de payer ses ouvriers. Et le prophète dit ceci au chapitre 22, verset 13, « Malheur à celui qui construit sa maison sans respecter la justice, et ses chambres sans respecter le droit, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. » Et en contraste avec cette attitude, Dieu rappelle à Joachim l'exemple de son père, le bon roi Josias. « Ton père ne mangeait-il pas? Ne buvait-il pas? Cependant, il pratiquait le droit et la justice, et tout allait bien pour lui. Il faisait droit aux faibles et aux pauvres, et tout allait bien. N'est-ce pas cela me connaître ? Déclare l'Éternel. » L'apôtre Paul et le prophète Jérémie sont clairs. C'est Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Et il est possible de manger et de boire comme le roi Josias avec sa bénédiction. Donc, le problème de l'homme de la parabole, ce n'est pas qu'il voulait se reposer, manger, boire et se réjouir. Le problème, c'est qu'il ne semble pas avoir voulu quoi que ce soit d'autre. L'apôtre Paul ne dit pas « si vous êtes riche dans ce monde, c'est mal », ni « si vos terres ont produit une récolte si abondante que vous n'avez plus de place pour la stocker, vous ne devriez pas profiter des bénédictions de Dieu ». Mais l'apôtre Paul dit deux choses qui ont une application directe pour comprendre l'histoire que Jésus raconte. La première chose, c'est que Paul dit aux riches de ce monde qu'ils ne doivent pas être orgueilleux, ni mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Or, c'est précisément ce que l'homme de la parabole a fait. Cet homme a cru qu'avec ses bonnes récoltes, il avait atteint son but dans la vie. Il a dû se dire quelque chose du genre « Maintenant, ma vie est entre mes mains. Je contrôle les choses. Je suis en mesure de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. » Il a bâti son avenir en mettant son espérance dans ses biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Paul dit donc aux riches de ce monde qu'ils ne doivent pas être orgueilleux et qu'ils ne doivent pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Mais il dit une deuxième chose. Il dit que ceux qui sont riches matériellement doivent rajouter à leur richesse matérielle une autre richesse. Une richesse en belles œuvres. Ils doivent profiter de leur richesse pour faire le bien, pour inclure leur prochain dans leur vie au lieu de l'exclure de leur pensée. Le roi Josias, dit Jérémie, mangeait et buvait, mais il pratiquait aussi le droit et la justice. Il faisait droit aux faibles et aux pauvres, et tout allait bien. Autrement dit, le roi Josias ne se contentait pas de jouir des bénédictions divines. Il assumait aussi ses responsabilités envers son prochain, et notamment envers son prochain moins favorisé que lui. Avez-vous remarqué que le prochain est le grand absent de la parabole de Jésus? À aucun moment, l'homme riche de la parabole n'envisage de faire profiter quelqu'un d'autre que lui, de tous les biens qu'il possède. Ses grandes vacances ne concernent que lui. Le riche de la parabole ne partage pas. Paul dit que les riches de ce monde doivent être riches en belles œuvres, se montrer généreux, prêts à partager, ce qui s'applique en particulier à leur relation avec ceux qui sont dans le besoin, les pauvres. Ceux qui deviennent ainsi riches en belles œuvres sont riches pour Dieu. Ils s'assurent ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Vous voyez, savoir considérer l'incertitude des richesses matérielles, savoir considérer la fragilité de notre vie et la perspective de la mort, apprendre à partager et à assumer ses responsabilités envers son prochain, tout cela, ça nous renvoie à l'orientation profonde de notre vie, à ce qui nous motive dans la vie, à ce que nous croyons concernant Dieu. Et nous allons le constater en lisant la suite du passage de l'Évangile. Donc je reprends là où nous nous sommes arrêtés, au verset 22, et je lis jusqu'au verset 34. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous, par ses inquiétudes, qui de vous peut par ses inquiétudes ajouter un instant à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel où le voleur n'approche pas et où la mite ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. C'est un passage de la Bible qui est vraiment très impressionnant. Et au moment de dire quelques mots dessus, je me rends compte à quel point ce que j'ai à dire, c'est d'abord quelque chose que j'ai à dire pour moi avant de le dire pour les autres. Et je voudrais simplement tirer trois vérités ultra simples du texte que nous venons de lire et poser trois questions, elles aussi très simples, mais peut-être des questions auxquelles réfléchir plus tard, peut-être des questions à noter et puis ensuite se demander quelles réponses chacun d'entre nous veut y apporter. Trois vérités ultra simples. Première vérité, Dieu existe et il agit véritablement dans le monde. Il nourrit les corbeaux. Il prend soin de la croissance des plus belles fleurs. Bref, il met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. C'est lui qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ne pas reconnaître cette réalité et ne pas être reconnaissant pour cette réalité, c'est agir comme une personne dépourvue de bon sens. Pourtant, l'existence de Dieu et sa providence sont des vérités très largement ignorées autour de nous. Et même pour nous qui nous disons chrétiens et qui le sommes, nous vivons bien souvent comme si Dieu n'existait pas, ou comme si son existence ne changeait rien dans la réalité de tous les jours, comme si Dieu se contentait d'exister, sans jamais interférer avec notre monde. Première vérité, Dieu existe et il agit véritablement dans le monde. Deuxième vérité, notre vie nous échappe. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Notre vie nous échappe malgré les efforts phénoménaux que nous faisons parfois pour nous faire croire à nous-mêmes que nous sommes aux commandes de notre vie. Ma vie sera accomplie si seulement. Si seulement quoi? Si seulement mon frère veut bien me donner la part d'héritage que je revendique. Non, car même dans l'abondance, ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes. Ma vie sera accomplie si seulement je peux arrêter de travailler et consommer tout ce qui me fait plaisir. Non, car tu peux mourir du jour au lendemain et tout cela ne te servira à rien. Et vous, quelle est la chose dont vous pensez avoir absolument besoin pour avoir une vie réussie? Donc, première vérité, Dieu existe et il agit véritablement dans notre monde. Deuxième vérité, notre vie nous échappe. Troisième vérité, Dieu est notre Père. Il prend soin de nous et il a pour nous un projet qui vaut mieux que le projet de grandes vacances du riche de la parabole. D'abord, il nous décharge du souci d'avoir à nous prendre en charge nous-mêmes. Lui nous prend en charge. Et il sait de quoi nous avons besoin. Et ensuite, il a trouvé bon de nous donner le royaume. Et il nous pousse à faire de ce royaume la priorité dans notre vie. Que Dieu, son action dans l'Église et dans le monde, son plan de salut en Jésus-Christ soit au cœur de nos préoccupations. Au lieu d'une vie égocentrique centrée sur nous, ayons une vie théocentrique, centrée sur Dieu. Nous faisons partie de quelque chose qui est plus grand que notre vie individuelle. Dieu nous inclut dans son royaume et Jésus est notre roi. Jésus est venu pour accomplir une œuvre de réconciliation. Il n'est pas venu pour nous aider à obtenir nos revendications. Dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. Il est venu au contraire pour nous rendre capables de vendre ce que nous possédons et de faire don de l'argent. Faire don de l'argent traduit un mot qui s'applique tout particulièrement aux dons faits aux pauvres. Et c'est pourquoi beaucoup de versions de la Bible traduisent « donnez-le en aumône » ou « donnez l'argent aux pauvres ». Des personnes qui sont dans le besoin devraient pouvoir bénéficier du fait que nous faisons partie du royaume de Dieu. Donc Dieu existe et il agit véritablement dans le monde. Notre vie nous échappe. Dieu est notre Père. Il prend soin de nous et il a pour nous un projet qui vaut mieux que le projet de grandes vacances du riche de la parabole. Je voudrais maintenant vous laisser avec trois questions. Trois questions qui sont liées au « N'aie pas peur, petit troupeau ». Première question. Quelle est la chose qui vous fait le plus peur dans la vie? Il n'y a pas une réponse qui vaut pour tous. Chacun doit répondre à cette question pour lui personnellement. Quelle est la chose qui vous fait le plus peur dans la vie? Dans le texte que nous avons lu, Jésus parle de gens qui s'inquiètent parce qu'ils se demandent s'ils vont avoir le nécessaire pour vivre. Cette peur peut être très profonde. C'est la peur d'être incapable de se débrouiller dans la vie et de se retrouver tout seul, sans rien. Quelle est la chose qui vous fait le plus peur dans la vie? Je vous encourage à réfléchir sérieusement à cette question, parce que parfois, on est prêt à faire n'importe quoi pour éviter ce dont on a peur. La peur pousse à mentir, à voler, à tuer. Ou bien elle pousse à se préoccuper tellement de soi-même qu'on n'a plus rien à donner à ceux qu'on pourrait aider. Je me demande parfois si l'obstacle le plus important à l'aide à l'égard des personnes pauvres n'est pas purement et simplement la peur. On a trop peur pour avoir suffisamment d'énergie ou d'amour pour se préoccuper des pauvres. Quelle est la chose qui vous fait le plus peur dans la vie? Deuxième question. Avez-vous déjà laissé Dieu vous rassurer au sujet de ce qui vous fait le plus peur. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Avez-vous pris le temps d'écouter le Maître quand il dit « N'aie pas peur ». Et puis, troisième question. Qu'est-ce qui pourrait se passer si vous laissiez Dieu vous rassurer au sujet de ce qui vous fait le plus peur? Le verset immédiatement après « N'aie pas peur », c'est « Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent ». Ce sont ceux qui ont su écouter Jésus dire « N'aie pas peur » qui sont capables de faire de grandes choses, comme d'être riches en belles œuvres, au point d'agir de manière significative en faveur des pauvres ou d'autres personnes qui sont dans le besoin. Le sel s'est donné comme mot d'ordre d'être une action chrétienne dans un monde en détresse. Et quand nous nous donnons comme mot d'ordre d'être une action chrétienne dans un monde en détresse, nous voulons promouvoir un certain style de vie parmi les chrétiens en France. Un style de vie qui nous pousse à inclure notre prochain, en l'occurrence pour le sel, le pauvre dans les pays en développement, à inclure notre prochain dans nos préoccupations. Mais pour le faire de manière véritablement chrétienne, c'est toute l'orientation de notre vie qui doit être façonnée par la parole du Maître. Alors que le Seigneur nous donne de l'entendre quand il nous rassure et de le suivre pour faire le bien. Amen.